Nous allons continuer notre grand thème, les enseignements du Dieu vivant, et plus particulièrement dans nos soirées, comment découvrir et contempler le visage de Jésus dans les proverbes. Dieu notre Père, encore une fois, nous nous abandonnons à toi, complètement, afin que tu puisses nous saisir et nous employer, que nous puissions être un canal vraiment libre, docile, qui n'apporte rien de lui-même, mais qui se laisse réellement remplir, et que tu trouves aussi des cœurs réceptifs pour recevoir cette parole qui a la puissance de sauver nos vies. Que ton esprit se manifeste au milieu de nous d'une façon toute sensible et que nous ne soyons pas à l'écoute de l'homme, mais à l'écoute de ta seule voix. Henri, Anne. Mes amis, ce soir, avec le chapitre 3 des Proverbes, nous arrivons à une des plus excellentes pages de ce livre. Les deux premiers chapitres nous ont donné en quelque sorte une exposition générale du sujet des Proverbes. Et nous entrons maintenant dans le détail de ce qu'est la sagesse et de ce qui caractérise son chemin. Mais avant de faire la lecture de ce chapitre, je vous rappellerai une fois encore les 7 règles que nous nous sommes fixées pour comprendre notre texte et pour en retirer le plus de profit. La première, c'est de bien comprendre le sens des mots que nous rencontrons. Et cela, quelle que soit la lecture que vous ayez à faire, eh bien, gardez cette règle. Quand vous lisez quelque chose, ne passez pas sur le mot que vous n'avez pas compris. Même s'il le faut, faites quelques économies et achetez un dictionnaire pour comprendre mieux le sens du mot. La deuxième de ces règles, c'est quand on lit la Bible et quand on lit la parole, il faut la lire avec un cœur humble, un cœur soumis, ce que nous avons appelé souvent un cœur d'enfant. Parce que si vous vous souvenez des paroles de Jésus, il dit que c'est aux petits enfants qu'est le royaume de Dieu. Et il dit que si nous ne devenons pas comme des petits enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Et surtout ce passage, cette prière de Jésus, quand il voyait ces gens qu'il avait choisis, et c'était la plupart des gens incultes, ses disciples, eh bien, il tressaille de joie, puis il lève les yeux au ciel et dit, « Oh Père, je te loue, parce que tu as caché ces choses aux sages, les sages de Jérusalem, les gens instruits, qui ne comprenaient pas, et tu les as révélés à des petits enfants. Oui, Père, c'est ainsi que tu l'as voulu. » Alors, si vous avez cette attitude, vous êtes dans le chemin où le Seigneur peut vous bénir. Mais souvenez-vous qu'il résiste aux orgueilleux. Si vous allez avec des pensées d'orgueil ou avec des prétentions que vous connaissez tout, eh bien, ce livre restera fermé pour vous. C'est pourquoi, dès mon enfance, on nous apprenait ce petit cantique qui n'est au fond qu'un verset du psaume 119, le verset 18e, « ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. » C'est le verset 18 du psaume 119. « Ouvre mes yeux, ouvre les yeux et je verrai les merveilles qui sont dans son nom. La troisième règle, c'est que nous nous laisserons sans cesse interpeller individuellement par le texte. Ça n'a pas encore été dit ce soir, mais peut-être qu'il y a certains versets qui vous ont frappé, intéressé, mais est-ce qu'il y a un verset que vous avez senti être pour vous, dans votre situation personnelle, qui vous a appelé comme une flèche, de telle manière que vous avez dit, mais ça, c'est pour moi. Parce que c'est ça qui doit se passer dans nos études. La parole de Dieu, vous devez vous l'approprier. Vous devez, je ne dis pas vous sentir visé, parce que moi je ne vous dis pas, c'est pas moi qui parle. C'est la parole. J'essaie de vous transmettre la parole. Mais cette parole, il faut que vous réalisiez qu'elle vous concerne. C'est pourquoi je m'appliquerai à m'adresser directement à vos consciences et à vos cœurs, tout en exaltant la personne de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui veut vous parler et qui connaît quels sont vos besoins. Moi, je ne dis personne, mais je sais que quand je lis la parole, cette parole me concerne et me dit quelque chose. Et m'amène peut-être à m'humilier sur un point, sur un autre. Il y a des choses que je vois que je dois changer. Paul lui-même disait, mais moi, je suis pas encore arrivé au but, je cours. Puis j'oublie les choses qui sont derrière. Je dis pas, oh, mais j'en sais tellement que j'ai plus besoin d'apprendre. Je cours, droit au but, pour le prix de l'appel céleste. Il y a un prix devant nous. Alors nous savons que nous avons toujours quelque chose à apprendre. Alors nous retiendrons chaque jour, c'était la quatrième règle, une parole précise, pouvant nous enseigner, disions-nous, nous instruire, nous corriger, et nous convaincre. Parce qu'il faut que nous soyons des gens convaincus dans ce monde, pour nous-mêmes. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. On m'a demandé de citer non seulement le chapitre ou l'épître ou le livre, mais aussi les versets, pour ceux qui prennent des notes. Alors, autrement dit, nous ne chercherons jamais la confirmation de nos pensées dans nos lectures. Moi, je peux avoir une pensée. Alors, je lis la Bible. Tiens, je voudrais bien que ce que je pense soit confirmé par la Bible. Non, c'est pas comme ça qu'on doit dire la Bible. Je ne cherche jamais la confirmation de mes pensées dans la Bible, mais je laisse la parole former mes pensées. Voilà. C'est prêt. Laissons la parole former nos pensées. Nous avons, disons-nous toujours que nous avons encore tout à apprendre. Quelqu'un m'a écrit, comme je l'ai dit la semaine dernière, quelqu'un m'a écrit, combien estimez-vous qu'il faut d'années pour arriver à une certaine spiritualité? Toute notre vie, on est toujours à l'école, on a toujours à apprendre. Je peux pas dire, mais moi, j'en sais tellement maintenant que ça va. Non. Vous savez bien que les gens doivent tout le temps se recycler. Hein? Eh bien, nous aussi, nous devons toujours nous recycler dans la parole de Dieu. 5e règle. Nous rechercherons à découvrir en chaque chapitre au moins un portrait de Christ. Et ce portrait, comme nous disons, pourrait servir de titre que nous donnerions à ce chapitre. Ça aidera notre mémoire. Je dis au moins un portrait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plusieurs. Dans plusieurs chapitres, nous verrons que nous pourrions trouver même 10-15 portraits de Jésus dans le même chapitre. Des portraits différents, mais de la même personne. La 6e règle, c'est nous éviterons de voir des contradictions dans le texte. Nous souviendrons que les proverbes nous donnent des règles générales, mais que toute règle peut souffrir des exceptions, des détails dans le temps. Et la septième de ces règles, c'est que l'importance et la valeur des proverbes nous seront montrés en les comparant à des exemples d'hommes et de femmes de la vie. Vous vous arrêtez sur un texte et vous direz, est-ce que se trouvait dans la Bible l'histoire d'un homme ou d'une femme qui éclairerait ce proverbe, cette parole? Parce que le proverbe, c'est une vérité, par définition, c'est une vérité d'expérience. Donc, nous devons trouver des gens qui ont expérimenté cela, et alors, en considérant leur vie, une lumière nous sera donnée sur ce sujet. Ceci dit, vous ayant rappelé une fois encore les règles pour les personnes qui n'ont pas assisté aux premières réunions, il me semblait que c'était utile de les souligner. Nous faisons la lecture de notre chapitre. Chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, ce qu'on n'a pas osé donner le vrai mot. Quel est le vrai mot? Ce sera la santé pour ton nombril. Bon, je ne sais pas comment va votre nombril, mais enfin, littéralement, ce sera la santé pour ton nombril. Et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, et je suis alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Deuxième mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme, et version plus littérale dira bienheureux l'homme, qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages dit-il la rose. Troisième mot. Mon fils, que tes enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, encore un alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne se heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain, te donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas son motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes. Là. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des gens. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Je ne sais pas si après la lecture de ces 35 versets, il n'y en a pas un qui s'est appliqué plus particulièrement à votre cœur. Je le demande pour que cette soirée soit vraiment enrichissante pour vous. Vous aurez remarqué simplement, puisque je l'ai déjà souligné, que à trois reprises, l'auteur s'adresse à son fils. Verset 1, verset 11, verset 21. Ce qui peut nous permettre donc de diviser ce chapitre en trois parties. Et disons même que jusqu'au chapitre 7 de ce livre des Proverbes, tous ces enseignements que nous trouvons sont adressés à un fils. La sagesse s'adresse à son fils, c'est-à-dire aux enfants de la sagesse. C'est-à-dire à des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont en relation avec la sagesse. J'ai posé cette question, quelle est votre relation personnelle avec le Dieu vivant, avec celui qui est la sagesse? Alors, si vous êtes en relation avec lui, si vous pouvez dire « je suis son enfant », comment devenir enfant de Dieu? Que nous ne sommes pas tous, dès notre naissance, des enfants de Dieu. Dès notre naissance, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus comme notre sauveur personnel. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, dit Jean 1, verset 12, non de la volonté du sang et de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ceci. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il nous faut recevoir le Christ comme notre sauveur. alors on devient enfant de Dieu. Donc on devient fils. Nous sommes en relation avec lui. Mais depuis le chapitre 8, alors nous verrons que la sagesse s'adresse à tous les hommes, parce que Dieu voudrait que tous les hommes, de tout peuple, de toute race, de toute nation, de toute religion, tous deviennent ses enfants. Mais maintenant, jusqu'au chapitre 8, c'est un enseignement qui est spécialement donné à ceux qui sont déjà en relation avec le Seigneur. Ici donc, la sagesse s'adresse à son enfant, à celui qui a été engendré par la sagesse. J'ai dit à des gens qui ont passé par cette nouvelle naissance. Jésus a parlé des enfants de la sagesse. Et il a dit que la sagesse, justement, était justifiée par ses enfants. C'est, si vous êtes au Seigneur, vous êtes un enfant de la sagesse, eh bien, vous justifiez le Seigneur par vos œuvres. C'est pas simplement dire, moi j'ai la foi, mais le monde, il veut voir vos œuvres pour être amené à la foi. Il faut les œuvres des croyants pour que le monde soit intéressé par le christianisme. Sinon, eh bien, il se détournera de toutes nos doctrines. Il faut que notre doctrine produise une œuvre, que notre connaissance ne soit pas morte, que notre foi soit vraiment vivante. Alors, enfant de la sagesse, nous pouvons voir les caractères que doit avoir à son début le chemin d'un fils de la sagesse. Et vous aurez remarqué, je l'espère, même dans cette lecture, qu'il y a plusieurs doublets. Ça va vous aider à comprendre ces proverbes. Dans les 10 premiers versets, nous trouvons 5 doublets de 2 versets. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Chaque premier verset renferme une exhortation. Et le deuxième verset de chacun de ces doublets contient quoi? Une promesse. C'est assez intéressant. Et ça vous aide à comprendre. Alors, nous allons voir. Verset 1. Une exhortation. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes traités. Voilà l'exhortation. Et la promesse, verset 2, si nous acceptons cette exhortation, eh bien, ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta vie. Donc l'exhortation, c'est n'oublie pas mes enseignements. Il faut donc garder les enseignements du Seigneur dans notre mémoire. Et puis, il faut les garder dans notre cœur. La mémoire, c'est une des puissances de l'âme. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre mémoire? Qu'est-ce que vous avez en mémoire? Vos péchés? Votre mémoire doit être purifiée par le sang de Christ. Dieu dit qu'il ne se souvient plus de vos péchés, ni de vos iniquités. Et il dit qu'il les a éloignés de vous, autant l'Orient est loin de l'Occident. Non seulement ils sont loin de Dieu, mais ils sont loin de vous. Dieu ne veut pas que vous viviez toujours dans le souvenir de vos fautes, et que vous ne sortiez jamais de ce sentiment de culpabilité. Vous avez eu des fautes, j'ai eu des fautes. Mais je les ai confessés au Seigneur, vous les avez confessés au Seigneur, vous ne devez pas vivre toujours dans le souvenir de vos fautes. Le Seigneur vous a pardonné. Alors, ce que vous ne devez pas oublier maintenant, c'est quoi? Ce sont ses enseignements. Alors ça, c'est celui-ci. Ce sont ses enseignements et et comment on vit. Et vous savez, plus on avance dans la vie chrétienne, plus on découvre vraiment que quand on vit du Seigneur, comme le dit l'apôtre Jean, il ne change pas. Voilà l'exhortation de ce premier billet. Et alors, la promesse au verset 2. Littéralement, on y trouverait une promesse qui est triple. Il y a une triple bénédiction. Il y a la longévité, il prolongera ses jours. Et puis, littéralement, il aura une vie qui mérite ce nom. Parce que bien souvent, vie, c'est pas une vie, c'est pas une vie. Eh bien, vie, vous aurez une vie qui mérite ce nom, qui mérite votre vie, et puis, vous connaissez ce qu'on peut appeler le bien-être après là. Avoir là. Avoir là. Voilà. Ce qui est réservé à ceux qui acceptent cette exhortation du verset 1. Une suite, une vie. C'est la promesse du verset 2. Prenez maintenant le deuxième doublet que nous avons au verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. D'autres versions disent que la bonté, que l'amour et la vérité ne t'abandonnent pas, ne te quittent jamais par ta faute. Lis-les à ton cou et qu'ils sur les sables de ton cœur. Voilà l'exhortation de verset 3. Et la promesse, verset 4, tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des gens. Qui est-ce qui a été caractérisé vraiment par la bonté ou par l'amour et la vérité, l'amour et la fidélité. Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il a été la manifestation vraiment de la bonté divine. Et aussi la manifestation de sa fidélité, mais aussi de sa vérité. La vérité. En plus, que nous la connaissons. Est-ce qu'il l'a reçu? La grâce et la vérité ne se sont pas vues. La bonté et la fidélité ne se sont pas vues. Un seul est grand. Un seul est fidèle. C'est lui. Elle fait son relation avec lui. Alors on connaît la bonté de Dieu. On connaît sa fidélité. Alors on peut aussi être bon et être fidèle. Parce que la bonté et la fidélité sont un fruit de c'est pas un produit de mon cœur. Comprenez-le bien, c'est pas votre cœur qui va produire ça. C'est que si vous acceptez ces exhortations, c'est que vous vous mettez à l'école du Saint-Esprit. Et si on est à l'école du Saint-Esprit, à l'école de Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui réalise cela en lui. Parce que lui a été la manifestation de la bonté, de la fidélité, de la grâce et de la vérité. Et vraiment, on peut dire que lui, il les avait liés à son cou. C'était un ornement qu'il avait. Quand on voyait Jésus, ben, on voyait ce que c'était que la grâce. Quand on voyait Jésus, on voyait ce que c'était que la bonté. Quand on voyait Jésus, on voyait ce que c'était que l'amour. Il n'y avait pas besoin de donner des définitions. L'amour, c'était lui. La bonté, c'était lui. La grâce, c'était lui. La vérité, c'était, je suis là, vérité. Je suis là, il était tout cela. Et ces commandements du Père étaient écrits où? Est-ce que Jésus s'est promené avec les rouleaux de la Torah, les rouleaux de la loi, pour prêcher? Non. C'était écrit dans son cœur. Il dit, ta loi est au-dedans de mes entrailles. La parole de son Père était écrit sur les tables de son cœur. Et c'est ça aussi qui doit nous caractériser. La parole ne doit plus être simplement dans les couvertures du livre, mais elle doit être dans notre cœur. Et pour que ça soit écrit dans notre cœur, il faut y penser. Alors, le Saint-Esprit va justement écrire ces choses dans notre cœur. Vous me direz là. Vous nous dites qu'il faut écrire ça dans notre cœur. Alors il faut tout que nous ayons une opération. À cœur ouvert. Grande opération à cœur ouvert pour que on puisse écrire ces paroles dans votre cœur. Non, c'est pas. Qui est-ce qui va se charger d'écrire ces paroles dans votre cœur? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si vous le laissez agir, va œuvrer dans votre cœur, et comme lui, il est à l'intérieur, hein, il va écrire dans votre cœur. Laissez le Saint-Esprit agir. Il écrira ces textes dans votre cœur, et il vous les rappellera. Il deviendra votre mémoire. Je lui dis souvent, les gens me disent, mais moi, j'ai pas de mémoire, ça ne sert à rien de lire ta parole. J'ai pas de mémoire. Mais si vous la lisez, le Saint-Esprit deviendra votre mémoire. Le Saint-Esprit écrira ses paroles dans votre cœur, et au moment opportun, il les fera remettre à votre mémoire. C'est ça qui est merveilleux. Laissez-vous faire par Dieu, et vous verrez des choses merveilleuses. Et nous devons refléter quelque chose de la personne de Jésus, et la parole, vraiment, est un véritable ornement. On connaît des chrétiens qui n'ont peut-être qu'une apparence, mais quand ils commencent de parler du Seigneur, ils rêvent. On voit la grâce, on sent qu'il dit ça, c'est du vrai. Autrement, ils sont peut-être tout à fait insignifiants. Mais quand on leur parle du Seigneur, alors, la communication est créée. Et on les voit déjà resplendissants, comme le reflet de la gloire de Dieu. Puis, si on regardait bien leur cou, eh bien, on verrait vraiment que les commandements sont liés à leur cou, c'est-à-dire qu'ils portent Jésus, ils se comportent sur l'esprit Jésus. Et quand on joue le Seigneur, il est. Un chrétien, il ne se plaint pas des commandements de Jésus. Avant, quand j'étais dans le monde, c'était Jésus. Le joug du monde, il est cruel. Le fardeau du monde, il est écrasé. Mais le joug de Jésus, il est doux. C'est un fardeau. Il est léger. Et il y a une multitude de gens qui peuvent rencontrer ce monde. Alors, les écrire sur notre cœur, c'est les écrire au sens de notre vie. Jésus, en entrant dans le monde, a dit, je viens aider pour faire sa volonté. Maintenant, passons à cette promesse du verset 4, alors. Si l'exhortation du verset 3 est reçue, vous aurez alors la promesse du verset 4. Qui obtiendra la grâce et une raison pour lui? Qui sera un homme équilibré? Tout mon sang à beaucoup de gens, c'est l'équilibre. Ou la maîtrise. C'est ça, c'est ça. Bien, Dieu voudrait qu'on soit maître de nous. Maître de soi, maître de nos nerfs. Tu obtiendras la grâce et une raison saine, la bonne faveur, la faveur et la bonne sagesse. Il est dit aux yeux de Dieu, que nous ne pourrons pas tromper, hein, lui voit tout ça, il connaît tout ça, nous aurons la faveur de Dieu, et puis aussi aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, c'est ce qu'était Jésus. Il croissait en sagesse quand il était même enfant. Il est dit devant Dieu et devant les hommes. Il faut que notre vie soit manifestée à Dieu, mais aussi aux hommes. Aux hommes qui nous ont suivis. Eh bien, si nous voulons avoir cela, nous pouvons connaître. Donc, avoir une vie qui est conforme à la nature de Dieu. Maintenant, prenons l'exhortation suivante, verset 5. Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et alors, la promesse, il la planira, c'est bon. Alors vous voyez, si vous vous êtes soumis aux exhortations du commencement de ce chapitre, et si vous avez bénéficié des promesses du Seigneur, et si vous pouvez dire, ben, oui, j'ai expérimenté que c'est vrai, que je suis béni, alors que cette double faveur que vous avez connue ne vous rend jamais présomptueux. C'est de cela qu'il faut avoir peur. Que les expériences, j'ai fait des expériences depuis 54 ans que je suis avec le Seigneur ou que le Seigneur est avec moi, réellement, depuis ma conversion, eh bien, je ne dois pas devenir présomptueux en disant, oh, mais moi, j'ai des expériences derrière mon dos, etc. Non. Je suis toujours les mains vides. Je bénis le Seigneur pour les expériences que j'ai faites, mais je ne vis pas des expériences pas. Et c'est là le secret d'un renouvellement qui doit être quotidien. Alors, les faveurs que nous avons déjà obtenues ne nous rendent pas présomptueux. C'est pourquoi il a dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que s'il y a eu de la sagesse, c'était laquelle? Celle de Dieu, elle nous avait été donnée. C'était un don. Alors, qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est pourquoi un chrétien authentique, c'est un homme, par définition, qui est un. Et ne détruisez jamais le caractère de Christ en vous, l'humilité. La douceur est l'humilité. Les gens durs et orgueilleux, eh bien, ne respirent pas le Seigneur. Mais un homme qui vit avec le Seigneur, une femme qui vit avec le Seigneur, il y a quelque chose de la douceur de Christ et de son humilité. Les croyants les plus avancés sont des gens humbles, et des gens doux. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, puis connais-le dans toutes tes voies. Avez-vous cette secret? Est-ce que le Seigneur est dans cette chose que je me propose de faire? Je suis en train de vouloir marcher dans cette voie, mais est-ce que le Seigneur y est avec moi? Si vous, vous pouvez dire non, le Seigneur n'y est pas, vous n'avez pas eu marche. Vous n'avez pas à aller dans un chemin où le Seigneur n'est pas. Et si vous avez le Seigneur pour berger, est-ce que vous serez devant le berger ou derrière le berger? C'est derrière, n'est-ce pas? Alors, c'est le Seigneur qui sera devant. Alors, vous êtes tranquille. Le Seigneur est devant vous et vous le suivez. C'est pas à vous qui demandez, Seigneur, suis-moi pour me garder s'il m'arrive un pépin. Dépanneur. Seigneur dépanneur. Non, c'est pas ça. C'est le Seigneur qui passe devant vous. Alors, prenez-le dans toutes ses voies. Donc, le faire aussi dans toutes nos voies. Même quand vous allez chez le coiffeur, ça se passera beaucoup mieux. Vous allez chez le coiffeur avec le Seigneur? Il va me gêner. Vous pouvez avoir le Seigneur avec vous chez toi. Pas seulement pour les femmes, pour les hommes. Il n'y a pas une chose qui n'intéresse pas le Seigneur. Il vous aime. Ou quand vous devez acheter une nouvelle robe, allez-y avec le Seigneur, il a dit vous. Ah, vous allez dire, oh ben non, hein, pas le Seigneur avec ça. Alors, quand est-ce que vous l'avez, le Seigneur? Si vous l'avez pas dans les petites choses, Seigneur, vous l'avez pas dans les grandes, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous pouvez chanter tous les cantiques, si possible, vous pouvez faire partie de toutes les chorales religieuses, ça me laisse froid. Absolument froid. Je suis con que vous ayez affaire dans dans ces petites choses avec le Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Connais-le, reconnais-le dans tout. C'est ça. si ça c'est donc, si c'est intimité avec le Seigneur, et c'est ça que nous dit les proverbes. Alors, repassez cela dans votre cœur. Vous aurez moins besoin du docteur. C'est tout. Crains l'Éternel. Donc, il aplanira tes sentiers. Alors, je passe plus loin. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, et alors, verset 8, ce sera la santé. La santé de tes muscles, avons-nous dit. Mais, en réalité, la santé de ton nombril. Pourquoi? Parce que chez les orientaux, puis aussi chez nous, le nombril, c'est le centre de tout le corps. Et c'est le siège de la vitalité. À quoi ça servait le nombril? On a été nourri. C'est par le nombril que notre vie était entretenue. Alors quand on était dans le sein maternel, on était nourri par là. De sorte que c'est l'image justement de tout le corps. Ce sera la santé de tout ton corps. Mais alors vous allez dire, mais alors on n'a plus à être malade. Non, mais alors c'est là que je dis. Règle générale, il y a des exceptions. Comprenez-vous? Mais d'une façon générale, si on faisait ça, on s'en trouverait beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est vrai. On s'en trouverait beaucoup mieux. Alors vous voyez, règle générale, ça sera la santé de ton corps. Et même un rafraîchissement pour tes os. Vous allez me dire, la parole a une puissance sur les os, ben c'est vrai. La parole de Dieu a une puissance sur les os. Elle peut rafraîchir nos os. Littéralement. Alors, passons plus loin, au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Ça, c'est l'exhortation. Et vous comprenez ce que ça veut dire, hein, c'est pas compliqué. Nous avons une part à faire au Seigneur de nos biens. Dans l'Ancien Testament, on donnait quoi? La dîme. Et maintenant, nous devons savoir que nous avons à faire de nos biens, si nous avons des biens, donner une part pour le service du Seigneur, pour l'œuvre. Ceux qui ont à cœur de mettre ça en pratique, qu'est-ce qu'ils verront? Et ça, c'est aussi un accomplissement. Alors, vous voyez, verset 10, qu'est-ce qui se passera? Vous serez à sec. Tes greniers seront remplis d'abondance. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et c'est vrai. Et tes cuves regorgeront de nous. Et il y a bien des chrétiens qui ont fait cette expérience. C'est en donnant qu'ils ont. Voilà, je vous ai signalé ces quelques doublets. Maintenant, nous arrivons au verset 11, à une deuxième partie, où il est question du Fils de nouveau. Dans la première partie, ce dont le Fils devait se souvenir, et maintenant, depuis le verset 11, ce que le Fils doit estimer. Qu'est-ce qu'on doit estimer? Verset 11. Mon Fils ne méprise pas la correction ou la discipline de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. C'est dans le programme. C'est dans le programme du chrétien, c'est parce que justement, nous sommes fils. Alors, il se peut que les bénédictions temporelles dont nous avons parlé fasse parfois défaut, et qu'au lieu de jouir de l'abondance, nous connaissions un temps difficile. L'apôtre Paul le dit, j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. Je sais être dans l'abondance, mais je sais aussi avoir faim. Alors, il y a des moments où le Seigneur trouve bon de nous éprouver. Eh bien, ça aussi, on doit l'aimer. Un temps difficile, au lieu de murmurer et de nous demander, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que tu permets ça? Mais justement, je sais que c'est dans le programme et que Dieu m'éprouve, que je passe par cette épreuve, bien, c'est la preuve que je suis l'enfant de Dieu. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments. Ce n'est pas à être effrayé quand je suis châtié par le Seigneur. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que nous croyons? Il m'est arrivé de réaliser que je n'ai jamais été si près du Seigneur que quand il me chassait. Que je savais que j'étais près de lui. Tandis que quand tout va bien, enfin, il semble qu'il n'y a pas d'épreuve, on nage dans la grâce, et quelquefois on s'éloigne. Mais quand on est vraiment dans l'affliction, dans l'épreuve, on est proche du Seigneur. Parce qu'il est notre Père et il veut notre bien. Alors il nous faut accepter la correction du Seigneur. Il y a beaucoup de textes qui nous montrent cela. Ça fait partie de notre bonheur. Verset 12 du psaume 94. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Bienheureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur, etc. Ben, c'est la même pensée qui se trouve dans les proverbes. Et dans quelle épître est-ce qu'on trouve cette pensée aussi? Hébreux, chapitre 10. Aucune discipline, aucun châtiment ne semble être pour le présent un sujet de joie, mais plus tard, cette discipline rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Et je sais que je suis un fils, tandis que s'il m'arrive rien, je pourrais penser que je suis un bâtard. Et Dieu s'occupe de moi, parce qu'il veut me faire participer à sa sainteté. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il ne vous éprouve jamais dans sa colère. Le Seigneur n'est plus en colère contre nous. Il a pu être en colère contre nous, mais sa colère s'est détournée. Alors, nous ne connaîtrons plus la colère de Dieu. La colère de Dieu, nous ne la connaissons pas. Mais ce que nous connaissons, c'est quoi? La discipline. Le Seigneur châtie ce qu'il aime. Mais nous l'acceptons et nous sommes reconnaissants. Nous avons reçu les biens de la main de Dieu, nous recevons aussi les mots. Lisez Job, lisez l'Épître aux Hébreux. Et alors, à partir du verset 13, la pensée se généralise et ce que nous voyons, c'est la valeur incomparable de la sagesse. Et alors là, j'aimerais que vous saisissiez, c'est pas difficile à comprendre, qui est cette sagesse. Et voyez-vous, vous avez là le premier bienheureux. Il y en a 8 dans le livre des Proverbes. Il y a 8 béatitudes, 8 bienheureux, comme dans l'évangile de Matthieu. Voilà le premier bienheureux. Bienheureux l'homme, je sais pas, qui a trouvé la sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Bienheureux l'homme qui a trouvé Jésus. Hein? Et l'homme qui possède l'intelligence. Qui est l'intelligence? Jésus. Hein? Alors, car le gain qu'elle procure, cette sagesse, cette personne, est préférable à celui de l'argent. Est-ce que Jésus est plus précieux que l'argent pour nous? Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Est-ce que vous avez fait cette expérience? Que vivre avec le Seigneur, ça valait mieux que d'avoir de l'or. Qu'être avec le Seigneur, ça valait mieux qu'avoir beaucoup d'argent. Avec le Seigneur, on a tout. S'il est nécessaire d'avoir de l'argent, il donne de l'argent. S'il est nécessaire d'avoir de l'or, il donne de l'or parce que l'Écriture dit l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Et il n'est pas fauché, justement. Les œuvres religieuses sont fauchées. Ils sont en dette. Mais quand on est en relation avec le Seigneur, il donne ce qu'il leur faut. Mais on fait un tas d'œuvres que le Seigneur n'a pas demandé. Alors avec toutes les œuvres que le Seigneur n'a pas demandé, il nous faut de l'argent pour les œuvres. Le Seigneur n'avait plus pas demandé. Mais ce qu'il demande, eh bien, il donne qu'est-ce qu'il leur je crois à cela de tout mon cœur. Et ce serait un autre témoignage qui doit être rendu dans ce monde. Alors, est-ce que nous avons trouvé la sagesse? Et voyez-vous, C'est formidable, cette expression. La sagesse, elle est présentée comme une personne qui tient dans chacune de ses mains les plus grands biens imaginables. Hein. C'est donc bien une personne, la sagesse, qu'elle a des mains. Une idée n'a pas des mains. Mais l'idée, là, le verset 16, hein, dans sa droite, dans sa main droite, et longue vie, et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Et quelle richesse? La richesse du Seigneur. Et quelle gloire? La gloire du Seigneur. Et cette gloire, elle se voit où surtout? À la croix. On va faire sa croix. Mais notre sujet de gloire, c'est justement de porter la croix. C'est d'être sous la croix. Et ces voix sont des voix agréables. La volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. C'est de l'autre côté que ça va pas quand on pense que la volonté de Dieu est désagréable. Demandons à Dieu qu'il nous montre, qu'il nous ouvre les yeux pour que nous voyons que ce sont des voies agréables. Et il est dit que tous ces sentiers sont paisibles. Restez dans la paix, les enfants des plus grands de Dieu. Et au fond, le verset 18 nous introduit où, en quelque sorte? Dans le paradis perdu. Ou déjà, dans la nouvelle Jérusalem, où nous trouverons l'arbre de vie. Et il est un arbre de vie. Cette sagesse est un arbre de vie. Qui était l'arbre de vie en Éden? C'était déjà le Seigneur. On ne s'est pas approché de lui. Mais maintenant, si nous recevons ces instructions, si nous estimons extrêmement précieux la personne du Seigneur, bien nous connaissons l'arbre de vie. C'est un arbre de vie pour ceux qui l'ont. Il faut la saisir. Saisis la vie éternelle, dit Paul. Hein. La vie éternelle, elle est là, c'est quelque chose, c'est le Seigneur. Mais, c'est là. Paul dit, je cherche à le saisir, vu que j'ai été saisi par Christ. Donc, vous voyez, on est aussi bien dans l'évangile que dans les épîtres. Et alors, au verset 19e, qu'est-ce que vous trouvez, déjà? C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts. Vous voyez là le travail des continents. Les abîmes se sont ouverts, les continents se sont séparés. Et qu'est-ce que nous apprendrons au chapitre 8? Qui était cette sagesse qui présidait à la création? C'est le Seigneur. J'étais avec lui son nourrisson. Quand Dieu créait le monde, qu'est-ce qui était là? Bon. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Donc la parole, c'est la sagesse. Comme nous allons le voir plus loin dans le chapitre 8. Et notez déjà ici que la sagesse nous est présentée comme étant celle qui préside à la création. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les choses. Donc, vous voyez bien, sagesse, intelligence, c'est quelqu'un, c'est lui-même. C'est par sa science, donc la vraie science, c'est Dieu. La vraie connaissance. L'amour du Christ surpasse toute science. Alors, continuons la troisième partie. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. Maintenant, nous voyons ce qu'il faut qu'un fils, qu'un racheté obtienne. Pour que les enseignements du Seigneur ne s'éloignent pas de nos yeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les lire. Il faut employer vos yeux. Employez vos yeux. On n'a plus le temps parce que nos yeux sont captivés par quoi? Par toutes sortes d'autres choses. Peut-être par la télévision. Garde la sagesse et la réflexion aideront la vie de ton âme. On voudrait avoir une vie intérieure. Moi, je ne crois pas beaucoup que la télévision peut nous donner une vie intérieure. Elle me met dehors. Elle me montre le monde, le pays étranger. Elle nous amène dehors. Elle nous amène rarement dedans. On vous dit non, non, il y a des émissions religieuses. Elles feront la vie de ton âme, énormément de ton corps. Et il n'y a rien qui peut remplacer la lecture de la vie. Vous pouvez ne pas le croire. Vous pouvez dire, mais c'est beaucoup plus intéressant de voir ça à la télévision, ou d'entendre à la télévision, ou dans des églises, ou dans des conférences. Alors vous allez à toutes les conférences religieuses. Vous ne serez pas grand-chose. Mais si vous lisez la parole, moi, je suis sûr qu'après le camp, vous ne saurez pas grand-chose si vous êtes seulement pour le camp. Alors, ça vous intéresserait. Mais si après le camp, et déjà donc, quand vous mettez à prendre le bon principe de lire la parole, de vous nourrir, vous serez bien. Vous aurez une vie intérieure. Elles seront la vie de son âme. La vie de l'âme, est-ce qu'on la voit? Non, c'est la vie intérieure. Hein. Mais l'ornement de son cou, ça c'est la vie extérieure. Un ornement, sur le coup, on le voit. Mais la vie de l'âme, on ne le voit pas. La vie de l'âme. Mais notre vie extérieure ne doit pas être un effort pour essayer de montrer quelque chose. Notre vie extérieure doit être le reflet de notre vie intérieure. Parce que ça, c'est du profil. C'est pour ça que, bien souvent, on a des mains. Alors, tu marcheras. Alors, vous voyez, de nouveau, c'est alors. Vous voulez avoir une marche sûre. Et tu marcheras avec assurance. On vient nous demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Vous voulez avoir une assurance dans votre marche et ne pas tomber à tous les pas? Alors tu marcheras avec assurance. Et ton pied ne se heurtera pas. Tu comprends ça, ma vie? Pas. Mais il y a quelque chose à retenir, c'est pour nous. Alors tu marcheras avec assurance et ton pied ne heurtera pas. Alors peut-être que si notre pied heurte une fois, parce que le Seigneur nous aime, c'est parce que nous sommes justement ses enfants, il avait peut-être quelque chose à nous dire. Alors je l'accepte. Je me dis, bien, j'en ai profité de ça. Au lieu de se dire, pourquoi le Seigneur ne m'a pas préservé? Il ne m'a pas préservé parce qu'il voulait me dire quelque chose. Alors, il m'a enseigné. En verset 24. Si tu te couches, voyez les bénédictions qui sont données. Donc, dans la marche, dans la journée, hein, on peut aller son chemin. Et il y a des obstacles, mais on ne heurtera pas. Si maintenant dans la nuit, alors qu'on a souvent des craintes, les craintes de la nuit. On pourrait en parler longuement des craintes de la nuit. Eh bien, il y a un moyen de délivrer les craintes de la nuit. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand c'est nouveau, Seigneur, vous l'avez vu coucher quelquefois? Oui. Il avait peur, oui. Il était couché dans une tempête. Tous les autres avaient peur. Lui, il dormait. Paisiblement, au sein même de la tempête. Si tu te couches, tu n'auras pas de crainte. Alors, voilà le Seigneur qui a vécu. Il n'avait pas de crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera. Il est dit qu'il en donne le temps à vous donner dans le sommeil. Le Seigneur peut vous donner le sommeil et vous visiter dans le sommeil, vous parler dans le sommeil. Il a bien parlé à Salomon. Il peut aussi vous parler à vous. Verset 27. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. La mère bien-aimée de ma femme a vraiment vécu ça dans le pays, dans la Chine, où ils étaient missionnaires, où il y avait des bandits, il y avait des brigands qui rôdaient là tout autour. Eh bien, quand je me souviens de cette histoire qu'elle m'a racontée, de son témoignage, elle n'avait pas peur. Pourtant, ça pouvait être une terreur soudaine, une attaque de la part des Japonais, que sais-je encore, d'hommes peut-être méchants.
souviens que quelqu'un lui avait dit, mais si on vous avait coupé la tête, Madame Arin, il m'aurait envoyé vers le Seigneur. Ça la troublait pas. Mourir pour un chrétien, c'est aller vers le Seigneur. Alors si c'est pas dramatique. L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Qu'est-ce qu'il y avait tout ça? C'est Jésus. Tu en as eu des embûches sur ton chemin? Mais bien sûr. Quand on lui disait, mais Seigneur, tu vas pas retourner en Judée, Hérode veut te tuer. Le Seigneur ne se laissait pas impressionner. Il disait, allez, dites à ce renard, il est plus comme ça. Il l'appelait un renard, celui qui voulait le tuer. Le Seigneur a vu tout cela, il ne traînait pas une attaque fidèle. Mais vous direz, oui, mais il est arrêté, oui, c'était son heure. Mais avant son heure, il ne peut rien nous arriver. Vous direz que vous croyez à votre baraka, je ne sais pas quoi, hein. Mais il n'y a pas besoin de ça. Je sais qu'il ne m'arrivera rien avant mon heure. Je marche dans le Seigneur. Mais si je ne marche pas avec le Seigneur, le Seigneur ne m'a pas dit qu'il me gardera dans le chemin où moi je vais faire ma volonté. Le Seigneur vous gardera toujours dans ses sentiers. Mais si vous êtes hors de ses sentiers, vous ne pouvez pas prétendre que le Seigneur vous garde. Il garde les femmes que bien aimées, mais il faut vivre dans l'obéissance. Alors le Seigneur sera ton assurance. Il y en a plus beaucoup dans le Seigneur pour l'assurance. Ils sont assurés de toutes les manières. Ils ont une assurance pourrie. Alors ils plaignent qu'ils ne voient pas de miracle. Seigneur, tu peux en faire. Ils ont leur assurance. Mais ceux qui n'ont pas d'assurance, peut-être qu'ils pourraient voir rien. Et voilà la fin. Ne refuse pas un bienfait. Alors, il y a quelques exhortations ici, à la fin de ce chapitre. On dira même qu'il y a 9 préceptes, dont 5 sont prohibitif, c'est-à-dire nous défendre certaines choses, et puis nous en avons 4 autres que nous soulignerons en y arrivant. Donc, des choses que nous ne devons pas faire. Avant, on a vu ce qui était positif dans la vie d'un enfant de la sagesse. Maintenant, il y a des choses qu'un enfant de la sagesse ne fait pas. Ne refuse pas un bienfait à celui qui est à droit. Quand tu peux faire le bien, donc, fais-le. Ça, c'est clair. Je n'ai pas demandé au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fasse du bien? Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Et quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai, alors qu'on avait de quoi donner, au juste. Donc ça, c'est pas agir selon Dieu. Parce que j'avais très bien ce que je dis, reviens demain, si on revient le lendemain, qu'est-ce qu'on apprend? Il est parti en voyage. Il revient dans un mois. Hein? Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ne le remettons pas à demain. Ne médite pas le mal contre ton prochain. On a tellement de choses à faire que de méditer le mal contre ton prochain. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Méditons. Ayons des pensées positives pour notre prochain. Voilà des choses qui ne vont pas faire, il y en a 5. Ne comptez pas sans motif avec quelqu'un. Lorsqu'il ne s'est point fait de mal. C'est-à-dire, ne fais pas de procès. Il y a des gens qui aiment les procès. Le chrétien ne fait pas de procès. Il préfère même subir une perte qui est pour. Tu viens de 31? Surtout, ne porte pas envie à l'homme violent. Et ne fasse aucune de ses voix. Je disais, cet homme, une lutte de violence, il s'arrête ici. Si on l'a pris tout mon vie. Je ne sais pas. C'est une chose. Ça, nous sommes étrangers à cela. Nous n'avons rien à faire avec ça. Pourquoi? Et c'est étranger. Car l'Éternel, celui qui est notre Seigneur, il a en horreur les hommes pervers, mais qu'est-ce qu'il est? Un homme. Oh, est-ce que vous voulez le connaître comme un homme? Qu'est-ce qu'a connu Dieu comme un homme? Voyez, qui c'est ça? Abraham, qui vient de voulez-vous de l'amitié de Dieu? Et si vous voulez être ami du monde, vous ne connaissez pas l'amitié. mais il voulait être ami de Dieu. Connaissez cet infini merveilleux. La malédiction de l'Éternel est dans la maison des méchants, mais il bénit la demeure des justes. Vivons dans la justice, et le Seigneur nous bénira. Mais il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte. Et je fais donc ce chapitre. Quel portrait de Jésus pouvez-vous voir là? On a vu celui qui baptise du Saint-Esprit. On a vu Jésus, don de Dieu. Et ici, comment le voyez-vous pour être inspiré? Il y aurait eu bien des hommes qu'on aurait pu citer comme exemple pour éclairer ces versets, par exemple le verset 5 aussi. Reconnais-le dans tous ses voiles, dirigera tes pensées. Alors vous pensez à Eliezer qui prie son voyage et qui fait l'expérience de Dieu le conduit à la bonne place. On aurait pu parler d'Aza, d'Ezra, d'Ezra qui doit faire un voyage dangereux. Et le Seigneur, il confie dans le Seigneur et le Seigneur le conduit ainsi que Néhémie. Appliquez l'histoire à vous-même de notre vie. Plus longue dans la prière. Mon Dieu, nous sentons bien que nous n'avons plus que pleurer ces vérités si importantes. Nous te demandons qu'elles s'imprime dans nos cœurs par la puissance de ton esprit. Et nous ayons un souvenir de réputation. Qu'il ne reste pas dans les proverbes, mais qu'il soit dans les vies. Et que nous puissions réellement nous attacher à ta personne, qui nous dit, quand tu viens à nous les mains pleines, ta main gauche, ta main droite, sont pleines de trésors, donne-nous des lâches qui se trouvent dans nos propres mains, de trésors. Je suis dans les films. C'est tellement meilleur.